On est bon ?
Bah écoute, on est bon. Allez, c'est parti, go.
Salut les amis, aujourd'hui on vous parle d'art visuel, mais pourquoi ? L'art est l'un de nos principales ressources pour favoriser et nourrir notre créativité au quotidien. Quand on est designer, l'art est l'une des clés essentielles de notre boîte à outils professionnelle. Alors vous imaginez bien que dans ce contexte exceptionnel, avec déjà plus d'un an de fermeture des musées, on a un peu la sensation de s'assécher, oui, de s'appauvrir. Impossible d'aller dans un musée, voir une expo, se faire surprendre. Parce que l'art, c'est aussi ça, des sensations, une expression visuelle et le développement d'un imaginaire. Un an sans musée, c'est un an sans culture de l'émotion visuelle, c'est un an sans ressources créatives.
Alors, la question va être dans quelle mesure on va pouvoir pallier à tout ça? Comment on va pouvoir réinventer ce manque? Dans quel état d'esprit est l'art aujourd'hui? Et donc, pour échanger sur ce sujet brûlant, on accueille aujourd'hui Sybille Bellamy-Brown, qui est guide conférencière et fondatrice de la société Art Access. Bonjour Sybille.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, le premier sujet qu'on voudrait aborder, toi qui es vraiment complètement dans ce milieu culturel, quelle est la situation de l'art aujourd'hui?
Alors, je ne vais pas vous dire que c'est mirobolant, mais je pense qu'il y a des choses positives et négatives dans notre projet. Première sensation qu'on a, nous, du côté des musées, du côté de la culture, c'est qu'on est vraiment dans un univers en suspens pour le moment. On est fermé et avec des équipes qui sont peut-être un tout petit peu pour l'instant démotivées parce qu'on n'a pas de calendrier. Et qu'on a surtout eu la sensation de deux essais manqués de réouverture. Et le dernier en décembre a été un vrai coup dur. Voilà, donc ça, c'est du côté, je dirais, patrimoine, mais même si on sait que des dates arrivent prochainement. Et la deuxième, la question, c'est est-ce que je suis capable de créer en temps de pandémie seule, sans calendrier? Et je dirais que du côté créatif, c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment.
D'après toi, quel serait le plus gros manque à ne pas avoir accès à l'art pendant plus d'un an? Quel est le vrai manque que tu peux observer potentiellement avec tes interlocuteurs, les gens, les visiteurs? Nous, on a beaucoup réfléchi à cette question en tant que designer. Le vrai manque est tout simplement la source d'inspiration, quelque part. Mais est-ce que tu penses que, de ton côté, tu as observé d'autres choses, d'autres types de manques?
Alors moi, j'ai pas mal réfléchi parce que j'ai quand même souvent eu cette question d'amis qui téléphonaient ou de collègues qui téléphonaient en disant « Nous aussi, on est en manque de culture ». Donc déjà, peut-être qu'on peut distinguer culture et art. Et souvent, avec cette question, je me posais la question de « Et moi, est-ce que je suis en manque d'art et de culture ?» Et j'avais tendance à dire « Non, en fait, moi, je suis pas du tout en manque d'art et de culture parce que je travaille encore ». Par digitalisation, enfin par visio, mais je travaille encore. En revanche, ça m'a posé une question, c'est qu'est-ce qui me manque? Et je crois que ce qui nous manque essentiellement, c'est pas l'art, c'est pas la culture, ce qui nous manque, c'est l'expérience de notre corps, l'expérience de nos sensations dans un cadre donné, dans une institution ou dans la rue ou autre, mais qui nous rappelle que l'art, c'est aussi une question de sens. C'est aussi une intelligence émotionnelle, c'est aussi voilà, ces éléments. Et je dirais que c'est plus ça qui nous manque, et c'est plus ça qui me manque, qu'une culture ou une curiosité intellectuelle sur différents des éléments. J'ai ce besoin de sensation, ce besoin d'émotion. Et donc, c'est vrai que je rigole, et je rigole souvent en disant « mais moi, j'ai pas besoin de… voilà, je suis pas en manque d'art ». En revanche, je suis en manque de vivant et de sensation vis-à-vis de l'art. Voilà. Ça, c'est un point important. Et puis, je dirais que ce qui nous manque aussi, c'est cette capacité qu'a l'art de nous ouvrir. Il nous manque l'imagination, il nous manque cette liberté de… Voilà, cette liberté-là avec cette possibilité de partager.
Oui, c'est plus lié à l'expérience, en fait, qu'on va vivre, qui attise tous nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, enfin… Et le partager avec d'autres et confronter en fait notre propre interprétation, notre propre imaginaire à celui des autres en fait.
Ouais, c'est ça. C'est en fait, il nous manque ce côté collectif aussi de partage, d'humanité. Enfin, moi j'ai tendance à rappeler qu'un être humain c'est un corps, mais c'est aussi l'âme et l'esprit assez vite. Et je trouve que c'est ce qui nous manque, c'est cette alchimie des trois. Dans ce regard ou dans cette expérimentation de la beauté par l'œuvre d'art, enfin, ou par voilà, d'autres sensations ou d'autres choses. Donc c'est vraiment ça qui m'interpelle en ce moment en me disant qu'est-ce qui va se passer après.
Ouais, du coup, c'est assez similaire à, on va dire, au manque que nous, professionnels de l'image, on pourrait ressentir aussi. Parce que finalement, outre l'expérience en tant que telle, c'est vrai que comme nous, c'est aussi un outil de créativité, c'est d'autant plus frustrant, en fait, je pense, de notre côté. D'ailleurs, ça m'amène à la question où je me dis, mais dans ces cas-là, quid des artistes?
Ouais, et comment dans cette période, en fait, ils ont soit rebondi justement, c'est-à-dire peut-être trouver des nouvelles pratiques, se poser des questions, ou peut-être justement améliorer, transformer leur pratique artistique en fonction du contexte.
J'en connais quelques-uns, j'ai sur des domaines un peu différents. Ça peut être aussi bien la peinture, le street art, ou même sur les comédiens. Moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a un assèchement pour certains. C'est-à-dire que la période d'enfermement et d'incertitude des premiers confinements a été compliquée. Et je crois très sincèrement, notamment par les conversations qu'on a eues entre nous. Je pense très sincèrement qu'il faut un contexte de sécurité avant de pouvoir créer. Donc, la non-perspective pose un certain nombre de problèmes, et notamment pour les comédiens, pour le spectacle vivant, parce que de ne pas avoir de date, de ne pas avoir de possibilité d'échanger et de partager avec un public, ça reste compliqué pour une création. Ce que je vois en revanche dans la peinture ou chez d'autres artistes plasticiens, c'est ce questionnement de et comment je peux faire pour m'exprimer autrement. Et pour les street artistes, c'était assez intéressant. Je pense à notamment deux, trois noms, mais on a vu apparaître des pratiques un peu nouvelles. C'est-à-dire, bah tiens, j'avais l'habitude de la fresque, et si je passais à la sculpture. Enfin, moi, je trouve ça amusant que quelqu'un qui vient fixer sur un plan, sur une seule surface d'habitude son art, se pose la question de la trois dimensions, du volume, se pose la question d'autre chose. Je pense que ça, le confinement, il y a pas mal aidé. Et je trouve ça étonnant de reparler de matière, de reparler différemment en fait de leur art.
Il y a deux écoles, quoi. C'est-à-dire, il y a ceux qui se sont complètement arrêtés, qui n'ont pas réussi à rebondir, et ceux qui finalement ont été poussés par la situation sanitaire à se renouveler et à redécouvrir et redéployer des choses, en fait. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de se dire que la COVID a été un cadre et un cahier des charges tellement fort, tellement contraignant que ce qui en sort est beaucoup plus créatif.
Ouais, et puis il a
Alors,
peut-être permis, en effet, dans certains domaines, par rapport à la notion de besoin et d'urgence, de, comme tu le dis, Lucie, de se réinventer dans une temporalité qui était très très courte et qui aurait peut-être mis des années à se faire, notamment, voilà, l'exemple de l'événementiel qui est du coup beaucoup passé dans le digital. Voilà, c'est vrai que c'est une pratique qu'on avait déjà un peu vue il y a quelques années, mais qui n'a pas été aussi exponentielle qu'elle l'est actuellement. Et voilà, je pense que dans l'art aussi, il y a peut-être des pratiques qui ont pris beaucoup plus de vitesse, qui sont vraiment réinventé de manière très 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 rapide et qui aurait peut-être pas été le cas en dehors de ce contexte-là.
la COVID, c'est comment mener de l'agilité dans tout ce qu'on fait. Et effectivement, ça nous repousse peut-être dans des domaines qu'on n'a pas l'habitude auxquels se confronter. Et finalement, on réinvente quelque chose. Donc ça, c'est en ça, c'est intéressant.
Moi, je suis d'accord avec vous, mais je mettrais juste un petit bémol quand même. C'est ce cadre sécurisant pour un artiste qui est quand même nécessaire. Et donc, on peut se poser la question de qui a pu être agile. Enfin, il y a de l'ordre du savoir, oui, je sais me renouveler, je sais, voilà, mais parce que j'ai le cadre sécurisant qui fait que je peux prendre ce risque de me renouveler. Et puis, il y a cette question aussi de je n'ai pas assez de sécurité, ou j'ai trop de charges, ou je suis trop rattrapée par des éléments matériels compliqués à mener et qui font que je m'assèche aussi. Enfin, c'est cet équilibre qui est assez étonnant et on va le voir enfin, assez rapidement. On sait qu'on a une partie de la créativité qui va être malmenée et qui sont dues simplement à des besoins qui sont complexes à mettre en place.
Oui, il y a une problématique de moyens. Est-ce qu'on a les moyens de tout transformer facilement, en fait?
Oui, tout en sachant que effectivement les petites structures sont des structures agiles. sont des structures qui vont se renouveler, trouver des nouveaux lieux d'expression, trouver des nouveaux moyens sur la toile ou ailleurs de s'exprimer. Mais vraiment, il y a cette question de quels sont les éléments sécurisants que j'ai autour de moi, d'aide, de subvention, de besoins matériels non nécessaires que je peux éliminer, etc., qui me permettent encore de créer.
Est-ce que cette période-là a pas un peu rebattu les cartes sur des structures plus grandes, et notamment les institutions comme on les connaît, c'est-à-dire les musées comme on les conçoit encore, enfin qu'on les concevait, on va dire, encore en 2019? Est-ce que ça va changer concrètement quelque chose?
Alors nous, dans les musées, ce qui est sûr, c'est que on a vu un bouleversement assez frappant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ferme une structure et qu'il faut l'animer, alors qu'on n'a pas forcément mis au départ beaucoup de billes sur le digital, sur la communication, etc. Le premier confinement a été un peu terrible, mais a été en même temps le lieu de réaction surprenantes et d'expérimentations qui ont renouvelé un peu le musée. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu exister avec des ateliers, avec des podcasts, et tout ça, en fait, était à peine initié. Et en quelques semaines, il a fallu se réorganiser. Et moi, je trouve qu'il y a une énorme activité du côté des musées, très expérimentale, qui est en train maintenant de s'organiser un peu mieux. Renouveler un musée, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux de notre côté depuis quand même une dizaine d'années. Et facilement, depuis 5 ans, on pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un musée ou un monument patrimonial. En revanche, la crise, c'est un accélérateur parce que, alors qu'on réfléchissait qu'il y avait surtout pour l'instant des réunions en disant et si le musée c'était ça, etc., là, on est passé à autre chose. On est passé à, et ben maintenant que le musée est fermé, qu'est-ce qu'on fait? Et de quoi a-t-on besoin? Et quels sont nos nouveaux visiteurs? Et comment le visiteur de demain qui reviendra dans un musée va vouloir visiter ce musée? Et donc, c'est vrai qu'on assiste dans la culture, on assiste à un mouvement qui est extrêmement intéressant. C'est qu'est-ce que je vais proposer comme expérience nouvelle? Quel public qui ne rentrait pas dans un musée et qui maintenant s'intéresse au musée ou différemment au musée, qu'est-ce que je peux lui proposer sur la toile? Et ce qui est évident, c'est que on va chercher l'expérimentation. Et ce rapport au corps dont on parlait tout à l'heure, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'on a besoin de visuel, on a besoin de rêver, on a besoin d'expérimenter. Évidemment, les reconstitutions marchent très très bien. Évidemment, les ateliers à l'intérieur de ces musées marchent très bien. Mais parce qu'on a besoin de faire et on n'a plus besoin uniquement d'un savoir intellectuel et de conservation d'un objet qu'on sacralise à l'intérieur d'un musée. On est vraiment passé à autre chose.
Pendant le premier confinement, je me souviens bien des expérimentations de Beaubourg avec le lancement de leur MOOC thématisé. Ils ont fait des visites virtuelles aussi en essayant de retrouver ce lien en fait finalement avec le public en faisant des lives. En faisant des lives, il y a plein d'institutions comme ça qui ont tenté en tout cas de le faire comme ça, et c'était plutôt intéressant d'ailleurs. Effectivement, on parle de double expérience maintenant, plutôt une expérience dans le musée et une expérience sur la toile. Ça permet aussi quand même de rendre parfois plus accessible la culture, notamment parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent pas forcément se déplacer dans les musées. Et ça, en ça, je trouve que c'est plutôt intéressant en fait comme idée de se dire quelle est l'expérience que je peux offrir, en fait complémentaire à la visite d'un musée en live.
Ah oui, moi je pense qu'on va beaucoup changer là-dessus et plutôt en bien d'ailleurs. Enfin, on va pouvoir rendre plus concret l'histoire de temps à autre. On va pouvoir porter plus. Enfin, on va jouer aussi sur ses sensations. On jouait pas du tout sur les sensations dans les musées il y a encore une quinzaine d'années. Donc tous ces éléments-là, c'est vraiment extrêmement intéressant. Le plus, c'est de redécouvrir qu'effectivement un musée, ce n'est pas juste un lieu avec une collection, mais c'est aussi la manière dont on peut en parler ailleurs, un peu dématérialisé, mais toujours avec cette conscience d'un patrimoine, conscience d'œuvres d'art qui sont conservées et que l'on peut que l'on peut diffuser, que l'on peut expliquer et diffuser différemment. Effectivement, ça ouvre un certain nombre de portes et moi, je suis assez, j'attends parce que ça veut dire qu'on a des nouveaux métiers, ça veut dire qu'on a une partie de créativité qu'on notait jamais vraiment dans les musées. Enfin, on avait toujours ce petit côté historien de l'art et la partie créative de qu'est-ce que je peux inventer pour aller chercher le public, on l'avait pas toujours. On l'avait dans des ateliers physiques, mais pas beaucoup sur la toile. Et donc, je pense qu'il y a, il y a vraiment un pan entier de découvertes à mettre en place.
C'est quand même enthousiasmant, en fait.
Ouais, alors on n'a pas toujours les moyens, hein. Enfin, il va falloir repenser aussi tous les modèles. On peut être désespéré, hein. On l'a tous été à un moment. Et effectivement, ça pose la question. Quand on ferme des galeries, quand les artistes peuvent plus s'exprimer et que les musées ne sont plus là, on pose la question de la culture. Est-ce que la culture est vraiment si essentielle que ça? Or, on le sait que c'est essentiel pour beaucoup de choses, et notamment pour l'être humain. Maintenant, ce qui est enthousiasmant, c'est que on a touché du doigt aussi ce manque-là et que du coup, l'après sera un peu différent. Et l'après sera différent parce que on voudra replacer l'art différemment dans nos vies. Et c'est là où les musées ou toute forme d'art a un rôle à jouer là.
Ouais, et puis en effet, comme ça a été un sujet quand même central pendant pas mal de temps, parce qu'on en a parlé partout, je pense que c'est aussi un facteur qui va pouvoir ramener des gens qui n'étaient pas forcément clients, on va dire, de ça, vers les musées, vers les nouvelles expériences que les musées vont proposer. Et en effet, je pense que de pouvoir dupliquer un peu des choses comme ça en digital, dans les musées, hors les murs, ça risque de permettre de toucher beaucoup plus de gens dans l'avenir. Et en effet, comme tu le dis, Sybille, je pense que les musées vont être dans cette dynamique-là. Et je pense que le public aussi va peut-être être dans cette dynamique-là. Le fait de ne pas pouvoir aller dans les musées, même si des gens n'y allaient quasiment presque pas, ils vont peut-être se dire là, bah justement, tiens, maintenant que ça a rouvert, maintenant que c'est reparti, bah peut-être allons voir ce qui se passe dans ces lieux-là.
Oui, et puis en fait, enfin, moi je le vois du côté des musées, il y avait un essoufflement et on avait déjà mis en place des choses, hein, les
Bien
spectacles
sûr.
son et lumière, je pense aux curieuses nocturnes du musée d'Orsay, je pense, voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui s'étaient créées, parce qu'on avait cette conscience qu'on perdait du public et que le musée, les équipes étaient conscientes du rôle qu'on pouvait jouer, mais il y avait un côté non attractif et je pense que la crise nous a permis de dire, ah ben oui, mais si on se relançait, si on proposait autre chose et si nous, déjà, on bougeait, peut-être que le public reviendrait aussi. Après, je reconnais que changer dans l'urgence avec une crise, c'est pas toujours très souhaitable, hein. Enfin, ça reste compliqué. Et sans doute avec ce sentiment qu'on fait un peu ça dans l'urgence et un peu dans le bricolage. Or, on est en train vraiment de faire muter, ces institutions de manière assez profonde. Et ça, c'est intéressant.
Alors là, dernièrement, il y a quelques jours, il y a le Forum de la culture, donc la ville de Bordeaux en fait, qui a lancé une campagne pour. Tu vas me dire ce que t'en penses, et j'ai trouvé ça assez fou, mais qui a lancé une campagne auprès de ses administrés pour savoir ce qu'ils pensaient du coût de la culture. En fait, c'est une campagne qui est en train de faire un espèce de tollé avec deux camps, deux salles, deux ambiances, parce que je pense que ça choque la tournure, en tout cas, ou l'approche reste un peu choquante pour les gens qui font partie du métier. Maintenant, quid réellement du public? Est-ce que ça te parle comme genre de finalement de consultation?
Ouais, alors moi, je ne connais pas du tout l'enjeu derrière. Ce n'est pas la première fois qu'on a des campagnes de cette manière-là. Enfin, je pense à Grenoble, au musée d'art contemporain de Grenoble, qui lui aussi, pendant longtemps, a été assez novateur dans ce genre d'affiches, en créant des buzz. Je crois qu'il y a surtout une envie de dépoussiérer, de dire on vous attend, il y a quelque chose de nouveau. Enfin, moi, ça ne me choque pas.
Non, mais ceci dit, je pense que c'est volontairement incitatif parce que là, clairement, il s'adresse pas du tout aux gens de la culture, mais alors c'est concitoyens. Je pense que ce qui peut être intéressant, moi, j'attends le résultat de ça parce que en fait, je pense qu'on peut être assez étonné et comme le disait tout à l'heure Samuel aussi, c'est que bah il y a beaucoup de gens qui parce qu'ils ont été privés complètement d'accéder à des musées, vont se replonger et vont être plus présents, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où ça va rouvrir, les salles de spectacle, les musées, etc., eh bien, on va certainement avoir une affluence. Et je trouve que ce genre de campagne pourrait permettre de montrer qu'effectivement, les gens, ça y est, sont attentifs et beaucoup plus présents pour être moteurs dans la culture. Et est-ce que la culture coûte trop cher? Bah, peut-être pas, parce que finalement, c'est quand même ce qui manque. Donc, je trouve ça intéressant, en fait. C'est à double tranchant, mais je trouve ça intéressant.
Mais je pense que oui, moi aussi, moi ça m'amuse parce que en fait, je pense que n'importe quelle personne dans la culture pendant le confinement fait un peu ça. Moi, j'ai provoqué mon entourage en disant, mais finalement, ça fait 9 mois que je suis non essentielle. Enfin, et je sais que c'est pas vrai. Enfin, donc tout va bien. Mais je pense qu'on a besoin de provoquer aussi pour faire réagir les gens. C'était sous-jacent, la culture, elle est partout, l'art, il est partout, il y a toute forme d'expression. Simplement, on a juste besoin de poser le doigt sur le fait que ça fait partie d'eux, ça fait partie de leur vie et que ça fait partie des choses qui sont essentielles pour eux, quoi qu'on en pense. Mais c'est quand même assez rare de voir des personnes qui sont ni intéressées par la musique, ni intéressées par le théâtre, ni intéressées par le... Enfin, qui s'enlève de tout regard artistique et toute forme de création artistique. Oui, c'est à l'intérieur de nous. Oui, on a besoin par ce genre de campagne ou par ce genre de phrase un peu ironique de leur rappeler que c'est important et que malgré tout, l'art, c'est pas gratuit. Enfin, il y a aussi. Il faut investir dans l'art, ça veut dire qu'il faut investir dans des moyens, c'est-à-dire qu'il faut protéger des filières, enfin, et tous ces éléments-là, il faut que tout le monde en soit conscient, quoi. On a besoin de rappeler aux uns et aux autres que, en fait, leur vie n'est pas dénuée d'art et de culture.
Oui, je pense aussi, et finalement, cette question, elle revient constamment. Si tu veux, ça me fait beaucoup penser à la place du designer en entreprise. Souvent, c'était le poste non essentiel en
Bah
entreprise.
oui, c'est ça.
Tu vois, on a besoin du comptable, on a besoin de la secrétaire, mais alors le designer, si t'as un plan économique quelque part, à un moment donné, c'est le designer qui saute. C'est une question sous-jacente qui revient constamment. Ouais, mais artiste, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est un besoin essentiel? Et comme tu le dis, c'est l'État, avec la crise sanitaire, a décidé que ce n'était pas essentiel. Et ça nous a été imposé. Et je pense que, comme bon français qui se doit, et que pour le coup, on est quand même souvent en réaction, bah, du coup, derrière, ça va apporter un regain. Un regain, une nouvelle fraîcheur, quelque chose qui fait que ça, je pense que ça va évoluer et que ça va être très très différent pour la suite. Donc pour moi, c'est presque des joyeuses perspectives qui peuvent
Ah oui, moi
aboutir cette
je
année.
suis comme toi, hein. Je trouve ça vraiment intéressant en fait. J'attends de voir ce qui va se passer, mais moi je pense qu'on va avoir un grand renouveau, mais qui était déjà en place hein, quand on voit effectivement le plus évident dans nos villes et autour de nous, c'est le street art. Quand on voit comment les collectivités, comment on aide progressivement avec des murs, avec des projets d'embellissement, etc. Je pense que tout ça va accélérer parce que on n'a pas besoin d'un lieu culturel pour s'exprimer. Ça peut être dans notre quotidien, mais simplement il faut l'organiser. Enfin, et il faut que tout le monde, que la collectivité accepte aussi de recevoir ça. Mais je pense que ça va changer pas mal de choses. Ouais, je suis assez d'accord. C'est bien. Alors après, la suite, c'est faire, enfin, que tout le monde participe à ce projet d'une manière ou d'une autre, en étant spectateur, en étant créateur, voilà.
Donc ça pourrait être le mot de la fin. Soyez acteurs de la culture.
Ça
Viendez au
pourrait être le mot
musée.
de la fin.
Non, mais en effet, Sybille, c'est vrai que c'est une réflexion intéressante ce que tu amènes, parce que la culture, c'est fait par tous ceux qui font de l'art, qui sont conservateurs de musées, qui sont artistes, etc. Mais le but aussi, c'est bien sûr derrière les gens et le public. Donc, il faut qu'en effet, il y ait aussi cette envie du public d'aller vers la culture et de redécouvrir ou découvrir le milieu culturel, artistique au sens très large, clairement.
Ouais, alors ça c'est drôle parce que on a bien vu que quand on a fermé les librairies, tout le monde a.
A crié au scandale alors que personne ne lisait de livres.
Voilà, et qu'en fait ils ont fait des très bons scores d'année, hein. Enfin, ils ont fait des chiffres d'affaires qui sont à peu près cohérents. Et c'est amusant, mais je pense que là c'est un peu pareil. En fait, on est dans cette même idée. On ferme des lieux artistiques, des lieux de créativité, etc. Prise de conscience de chacun que en fait ça fait partie de nos quotidiens et ça fait partie de notre rapport à notre humanité, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Enfin, on a cette émotion, on a ces sens qu'on utilise aussi pour l'art, et donc prise de conscience que à nous d'être d'organiser les éléments, mais on voit bien chez les artistes qu'aujourd'hui, il y a de nouveau une créativité qui est due au fait que le public est là. Enfin, on sent une attente. On sent une attente. Il suffit de regarder les files d'attente dans les galeries d'art, enfin, quand les galeries ont été ouvertes, etc. On sent qu'il y a une prise de conscience que c'était autour de nous et qu'on pouvait faire les choses. Les podcasts des artistes en musique, voilà, ça marche toujours, hein, les concerts. Je vous attends. Sur la plateforme pour un concert, oui, ça marche très bien et heureusement que ça marche. Enfin, il va avoir quelque chose de nouveau, voilà. Il faut juste prendre encore, enfin, accepter ces risques-là pour les artistes, accepter la transformation pour les institutions culturelles, pour les collectivités, pour les autres. Bah, comment je peux les accompagner? Et puis, bah, nous, en tant que participants, spectateurs, visiteurs, etc. Bah, prendre notre mal en patience, j'ai envie de dire. Et puis, on va y arriver.
Oui,
Ça va sortir.
je pense qu'on va y arriver. En effet, si on peut un peu conclure sur le débat qu'on a eu ensemble tous les trois, c'est, je pense que ce qui ressort de tout ça, c'est quand même une note assez positive, dire que malgré tout, malgré les difficultés, malgré le contexte économique qui est compliqué, en effet, pour certains, et ça, clairement, malheureusement, il y en a peut-être qui passeront pas ce cap, mais globalement, il y a une vraie transformation qui s'est accélérée, parce que comme tu nous le disais, elle était déjà là, mais elle s'est accélérée. Et je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui vont ressortir de tout ça. Et l'objectif derrière, bah voilà, c'est de pouvoir relancer un peu la dynamique, que les gens reviennent au musée ou voilà ou aient envie de vivre des expériences ensemble, donc que ce soit dans les musées, hors les murs, dans des concerts qui seront peut-être un peu réinventés aussi. Donc je pense qu'il va y avoir un vrai engouement comme ça, une vraie envie de partager, et vraiment je pense une notion de live qui va se faire, où les gens vont avoir envie de faire ensemble et de voir ensemble des événements culturels et aller vers ce genre de manifestation. Donc voilà, donc soyons positifs et je pense que la culture va repartir très très fort d'ici peu.
Et ça veut dire aussi, et du coup je prends le mot de la fin, ça veut dire que du coup vous allez de nouveau être inspiré.
On a toujours été inspirés. Mais c'est vrai que pour conclure un peu sur nos métiers, et comme on l'a vu lors de cet entretien, toutes ces initiatives pour digitaliser l'art, elles ont quand même permis de créer une continuité à la fois avec le public, mais aussi avec les créatifs qui, eux, ont pu continuer à se nourrir artistiquement pendant cette période. Il a été très facile, et il est très facile d'assister à des visites virtuelles, d'aller consulter des collections de musées ou d'institutions culturelles via leur site internet. Il y a aussi les médias dans cette période qui ont joué un rôle important, comme par exemple Culture Box, Arte Créative ou France Culture par exemple, pour ne citer que. Mais c'est vrai que malgré tout, toutes ces sources d'inspiration, elles restent tronquées ou partielles, car elles passent principalement par le visuel. Et c'est vrai, comme on a pu le voir ensemble lors de cet entretien, l'expérientiel, c'est vraiment quelque chose d'assez important et qui nourrit à d'autres niveaux et en profondeur. C'est vrai qu'on se souvient de quelque chose qu'on a vécu de manière différente et plus pérenne que quelque chose qu'on a pu voir ou lire. Un designer, peu importe sa spécialité, alimente sa créativité grâce à la multiplicité des sources. L'ensemble de ses sens sont en éveil, un peu comme une éponge, je dirais. Il absorbe tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent. Et du coup, c'est son savoir-faire qui va lui permettre justement de synthétiser ses différentes expériences, ses différentes matières, et de les transformer et de les reporter sur un support ou un médium. Mais justement, ce sujet de la créativité, on en reparlera dans notre prochain podcast. Donc, Affaire à suivre.
Bon, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous pour des prochaines aventures, quoi.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Je te remercie, Sybille, pour cet entretien et au plaisir de te revoir très vite dans un podcast de l'air de rien.
Ouais.
Ou en vrai, dans un musée.
Exactement. Il attend. En tout cas, merci et à très bientôt.
À très bientôt.
Merci, Sybille. À bientôt.
Et pour ne pas rater la sortie de notre prochain podcast, abonne-toi sur nos pages Facebook, LinkedIn ou Instagram.